Et à 22h33, nous accueillons Nicole au 3921. Bonsoir, Nicole.
Bonsoir, Olivier.
Bonsoir, comment allez-vous, Nicole ?
Je suis un petit peu angoissée, perturbée. Je suis contente de vous avoir au bout du fil, c'est qu'à de le dire. Donc, j'ai eu Florian tout à l'heure, à qui j'ai expliqué mon souci actuel, et puis ça me ronge depuis pas mal de temps. Voilà. C'est pour mon fils, bon, qui a rencontré de gros problèmes, qui a fait de la dépression, qui depuis maintenant bien 4 ans, on ne voit plus sa fille. Voilà. Mmh. Et c'est très difficile pour lui, pour l'entourage, pour moi aussi, la grand-mère, parce que bon, c'est pas simple, je suis toute seule, bon. Et je suis seule à aider mon fils pour essayer de le sortir de ce tourment, si vous voulez. Voilà.
Alors, tout d'abord, racontez-moi un peu quel est le contexte de la naissance de cette petite fille, de la rencontre de votre fils avec la maman de cette petite, et que s'est-il passé exactement ?
Alors, mon fils, bon, à l'heure actuelle, bon, il vient de divorcer avec la troisième femme qu'il a eue dans sa vie. La première, bon, mais il a vécu quand même pas mal d'années avec Florence. Il a un fils de 22 ans. Et puis, il s'est séparé de Florence. Et après, bon, ben, il a rencontré Karen, avec qui il l'a connue en 2007 jusqu'en 2013. Et ils ont eu Loane. Et Loane a 12 ans maintenant. Voilà. Et puis, mon fils, bon, comme Florian a dû vous expliquer, mon fils a des gros problèmes de santé, des séquelles, bon. Le syndrome du golf,
Florian m'a parlé d'un syndrome post-traumatique.
Voilà, tout à fait. Oui. Et ça, c'est très... c'est épouvantable à gérer au quotidien. Épouvantable.
Ça se traduit comment, en fait, lorsqu'il est rentré d'Irak?
C'est pas l'Irak, il a fait la guerre du golf, parce qu'il est rentré en 89 dans la marine. Oui. Il a resté 17 ans, il est ressorti en 2006.
D'accord.
Et puis, si vous voulez, quand il est sorti de la marine, bon, il a les premières années, bon, il n'y avait rien du tout parce que c'est une maladie, paraît-il, qui arrive progressivement, vous voyez, au fil du temps. Et puis, bon, ben, il y avait des symptômes, il y avait des problèmes, et puis bon, il y a eu les problèmes d'alcool, hein, ça, voilà. Parce que je vais vous expliquer, j'ai un ami qui était médecin militaire, avec qui j'en ai beaucoup parlé, qui m'a beaucoup expliqué, c'est pour ça que je vous dis ça. Et il m'a dit, tu sais, moi j'ai rencontré des gars, ils sont tombés complètement à zéro à la suite de la guerre du Golfe. C'était catastrophique, il y en a certains, ils ont fini dans la rue comme des cloches. Et puis voilà, hein. Même des personnes qui se sont suicidées, vous voyez.
Oui.
Donc pour mon fils, à gérer ça au quotidien, c'est très difficile. Mais enfin, oui, là, tout de suite, il va mieux. Mais bon, le chemin n'est pas terminé encore, hein, il faut une reconstruction complète. Et puis, vous savez, il a un suivi avec un psy. Et ce psy, bon, il est bien, bien gentil, mais il le bourre de médicaments. Hein, et c'est pas ça. Certainement qu'il faut un traitement médicamenteux, c'est obligé. Mais il faudrait qu'il y ait quelque chose, vous voyez, en parallèle pour l'aider, pour, vous voyez, avec qui il puisse parler, échanger. Et ça, il n'y a aucune structure, on ne trouve rien. Parce que vous savez, j'habite dans le Puy-de-Dôme. Hein, donc, voilà.
Oui.
Et ça fait trop longtemps qu'on cherche pour, pour avoir autre chose à côté, en parallèle avec le psychiatre. Parce que le psychiatre, ce qu'il propose, lui, simplement, hospitalisation, et puis on fait des médicaments. Voilà.
C'est de toute façon une problématique dans ce pays de trouver un psy.
Oui.
C'est vraiment dommage, parce que vous êtes nombreux, hein, sur cette libre antenne à l'évoquer.
Oui.
À évoquer cette difficulté de trouver un bon psy. Et,
oui. Et
pourtant, je peux vous dire qu'en France, des psys, il y en a.
Oui.
Et puis, il y en a de partout, de très, très bons, très efficaces. Le souci, c'est que on a du mal à les trouver.
Oui. Il est peut-être compétent, parce que mon ami qui est médecin me dit, bon, je trouve qu'il ne gère pas trop mal au niveau des médicaments, parce que, bon, je lui envoie les ordonnances, bon, il voit un peu les médicaments qu'il prend et tout, il ne gère pas trop mal.
Ah non, mais je ne voulais pas dire que le psychiatre n'était pas bon, mais
ah oui,
je faisais suite à ce que vous m'aviez dit, oui. C'est que ça ne suffisait pas pour votre fils, vraiment.
Non,
c'est,
non,
ça,
non,
c'est
non.
L'accompagnement du psychiatre, c'est quelque chose. Non. Le psy va peut-être pouvoir le voir toutes les semaines, parler avec lui. Vous voyez, il y a une approche
assez
différente.
C'est pas suffisant, vous voyez, bon, il y va en consulte, bon, il restera, mettons, 20 minutes, une demi-heure, et puis c'est terminé, hein, ben, voilà, c'est rapide, c'est pas... Et alors, il a essayé, vous savez, ce qu'il a essayé beaucoup, parce que je vous écoute tous les soirs, hein, Olivier, donc, et j'ai entendu, bon, des témoignages, des gens qui ont fait, bon, on a tout essayé, le MDR, vous savez, il a essayé avec
oui,
une personne,
oui.
Et ben, elle lui a dit, ça marche pas sur vous, elle a pas réussi à le soigner, vous voyez. Ça n'a pas marché du tout.
Mmh.
Alors, je ne sais pas si... Et vous savez ce qu'il faudrait, bon, enfin ce qu'il faudrait, ce qui serait
alors,
souhaitable.
Racontez-moi comment... D'abord,
oui
quel est le... Je veux dire, plantez-moi le décor de ce couple qui se sépare et pourquoi n'a-t-il
ah, oui
plus vu sa
oui,
fille depuis 12 ans de, enfin,
oui,
sa fille de 12 ans depuis 2 ans maintenant.
Maintenant, ça fait 4 ans qu'il ne l'a pas revu.
Ça fait 4 ans, d'accord.
4 ans. Oui, alors donc, il était avec cette personne, donc ils ont eu cette petite fille. Donc, Loan a 12 ans, Laura 13 ans cette année. Et puis, ils se sont séparés en 2013. Voilà, ben, bien sûr, parce que mon fils avait ses gros problèmes. Bon, elle avait, bon, ben, qu'est-ce que vous voulez, bon, je ne sais pas, moi, exactement, c'était leur couple. Bon, ils étaient tous les deux, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça a créé des problèmes parce que du fait que mon fils était malade, vous savez, mais bon, voilà, mais c'était lui le méchant, c'était lui le. Voilà, hein, alors ils se sont séparés.
Oui.
Ils se sont séparés. Après, il a rencontré une autre personne. C'est ce que je dis souvent, c'était la personne. Bon, béquille un petit peu, si vous voulez. Bon, et puis, il a eu l'idée de se marier avec cette personne. Enfin, bon, c'était son choix à lui, hein, bon. Et là, il a vécu pendant 4 ans un enfer. Hein, parce qu'il est tombé avec une perverse narcissique qui lui a tout fait, tout. Et elle est partie, cette personne, elle avait 4 enfants, elle a abandonné 4 gosses. Mon fils, bon, bien sûr, s'est marié avec elle. Et c'est tombé une période où mon fils n'était vraiment pas bien du tout. Il était pas dans sa tête, pas dans sa peau. Voilà.
Hein. D'accord.
Donc, des conséquences terribles. Là, le divorce vient de se terminer, mais enfin, c'est pas encore complètement peaufiné, si vous voulez. Mais bon, ben... De ce côté-là, il est libéré, mais il a souffert le martyr. Il s'est passé des choses épouvantables.
C'est-à-dire ?
Eh ben, c'est-à-dire que il était tombé complètement au fond du trou. Médicaments, alcool, hein, une loque, hein, une loque.
D'accord.
Alors, je l'ai récupéré chez moi. Et puis, je l'ai aidé. C'est moi qui l'aide, moi, sa mère. À 75 ans, j'aide mon fils. Parce que je suis toute seule à me battre, à l'aider. Et je suis la seule, si vous voulez, qui a compris sa souffrance et puis qui... Et qui comprend, et je veux absolument que mon fils s'en sorte, je veux pas qu'il plonge, je veux qu'il s'en sorte.
Oui, c'est normal, bien sûr.
Mais c'est vrai que j'aurais besoin d'aide, une aide extérieure, quelqu'un m'aide.
Oui. C'est la guerre maintenant avec son ex-femme ?
Avec avec son ex-femme,
ben oui,
là, avec qui il s'est marié, parce que les deux premières, il s'est marié avec celle-ci là.
D'accord.
Oui, non, mais là, maintenant c'est classé, si vous voulez. Maintenant, il reste plus qu'une partie, la partie financière, donc ça va se régler très rapidement maintenant. Hein. Il va être complètement libéré.
D'accord,
hein,
mais l'important, ça serait peut-être qu'il revoie sa fille. Or,
oui, non, mais pour sa fille, avec sa fille. Oui, mais sa fille, oui, non, mais c'est pas. Excusez-moi, on parle pas de la même personne. Je parle de sa femme, la femme qu'il a eue, avec qui il s'est marié la dernière.
D'accord,
mois.
Mais
voilà.
Là, si j'ai bien compris, vous m'appelez aussi pour sa petite fille qu'il ne voit plus. Comment se fait-il qu'il ne la voit plus du tout, en fait?
Alors, je vais vous expliquer, parce que comme il s'était marié avec cette personne, la troisième, là, c'était une personne qui était excessivement jalouse. Elle était jalouse de l'amour que ma petite fille pouvait porter à son papa. Et mon fils avait sa fille tous les 15 jours. Hein, ça se passait pas trop mal.
Oui.
Et puis un beau jour, ben, y a eu des dérapages. Je n'étais pas avec eux, hein, malgré qu'on a voulu me mêler au milieu de leur vie à eux deux. Bon, je m'en occupais pas plus que ça, si vous voulez. Et la petite, ben, un beau jour, madame a décidé de... Ben, elle a écrasé le téléphone de ma petite fille sous ses yeux. Parce que ma petite fille voulait téléphoner à sa maman, et puis la petite n'était pas bien. Mon fils, ce jour-là, ne devait pas être trop bien non plus, vous comprenez la situation, vous voyez un peu l'ambiance qu'il pouvait y avoir.
Oui.
Et la petite, eh ben, si vous voulez, ça, c'est là que ça a démarré, les gros problèmes. Et mon fils n'a pas revu sa fille depuis les vacances de Toussaint en 2016. Voilà.
Hein? Mais donc, est-ce qu'il y a un cadre juridique qui entoure la garde de cette petite?
Ah oui, après mon fils a été au tribunal, si vous voulez, c'est la maman qui en avait la garde de la petite. Hein? Parce que déjà, quand mon fils s'est séparé d'avec elle, la maman bon, avait déjà... voulait déjà que mon fils soit séparé de la petite, hein, parce que c'est depuis le début, hein, parce que ils ont eu ces petites filles, mais si vous voulez, la mère voulait pas que mon fils s'occupe trop de sa fille, si vous voulez. Alors après, ils sont séparés, alors après, ça a enfoncé le clou, hein, vous comprenez? Voilà. Et puis la petite, ben, la petite, il la voit pas. Hein. Alors les premiers temps, il l'avait donc tous les 15 jours, quand ils se sont séparés. Après, la petite, elle venait tous les 15 jours.
Oui.
Et puis, il fallait que mon fils aille la chercher au centre Aramis, parce que, si vous voulez, mon fils était dangereux, bon, la petite était en danger, soi-disant, enfin bon, vous voyez, il y a eu toute une histoire qui se greffait là-dessus, vous comprenez ?
Mm-hmm.
Et puis, la femme de mon fils, son ex-femme maintenant, on va dire comme ça, c'est elle qui a écrasé le téléphone de ma petite fille. Alors ce jour-là, je ne vous dis pas ce qui s'est passé. Alors moi, après... ce jour-là, on m'a appelé. Bon, ça n'allait pas du tout. Bon, moi, j'ai pas voulu intervenir. J'ai dit, bon, j'avais envie de ramener ma petite fille. Et puis la maman m'a fait le reproche. Elle m'a dit, vous auriez dû récupérer Loane, pas laisser Loane. Enfin, après, j'ai dit, moi, c'est pareil. Moi, je pouvais pas intervenir non plus. Le père est là, mon fils était là. Je pouvais pas intervenir au milieu de tout ça. Vous comprenez?
Oui. C'est si j'ai bien compris, c'est en fait l'ex-femme, celle avec qui il s'était marié. Qui a endommagé, écrasé le téléphone de
voilà.
Loane. D'accord.
Voilà, mmh. Voilà. Sous les yeux de ma petite fille. Alors, vous pensez que la maman, déjà, elle avait beaucoup de griefs envers mon fils pour la petite. Alors là, c'était catastrophique, hein. Catastrophique, catastrophique. Hein.
Quel impact cela a sur votre fils aujourd'hui? Ça le rend dépressif? Comment
oui.
vit-il tout ça?
Oui, 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 oui. C'est très difficile de ne pas voir sa fille. Alors là, on
il
avait...
Il essaie de l'appeler un peu?
Comment ?
Il essaie d'appeler, elle a un numéro de téléphone ?
Ah ou... oui, mais elle ne répond pas au téléphone. Elle répond plus au téléphone maintenant.
D'accord.
Elle ne répond plus.
Elle
répond plus.
Elle ne veut plus parler à son père ?
Eh bien, j'ai eu l'impression vendredi, vous voyez, que j'ai trouvé qu'elle était changée, la petite, même vis-à-vis de moi. Bon, elle a été si vous voulez, polie, mais j'ai senti qu'elle était sur la réserve. Vous savez,
mais
on sent qu'elle n'est pas naturelle. Si vous
l'avez
voulez.
Eu au téléphone ? Enfin, racontez-moi.
Mais je l'ai vu en réalité, je l'ai vu vendredi soir.
Ah bah,
je lui porter les cadeaux de Noël parce qu'on n'avait pas pu se voir pour Noël. Alors, donc, j'ai porté les cadeaux et puis, bon, ben, elle a été mignonne, elle m'a parlé un petit peu, mais on sent, elle est coincée. Elle est coincée. Dès que la maman est là, vous comprenez ? Et puis la maman anticipe toujours sur ce qu'elle veut dire, et puis voilà, c'est ça.
Ouais, ouais.
Hein
mmh.
Et
vous
alors,
sentez,
elle m'avait envoyé
vous sentez
un message
qu'il y a,
à maman.
Il y a un conditionnement de cette petite fille par la maman, en fait.
Oui, oui, oui.
Vous sentez
vous savez, une fois, vous parliez pour... j'avais écouté à l'antenne une maman qui se confiait, ou un papa, je ne sais plus, et vous avez dit que c'était un conflit de loyauté.
C'est un conflit de loyauté si cette petite vit avec sa mère en permanence.
Voilà.
Elle doit faire attention à tout ce qu'elle dit par rapport à vous, par rapport à tout ce qui a à voir avec son père. Elle doit faire attention à ne pas blesser sa mère. Voilà. Parce que dans sa tête, être gentil avec vous, être attentionné, ça peut.
Oui.
Dans sa tête à elle, hein. Elle l'interprète comme étant quelque chose qui peut blesser sa maman.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Donc du coup, c'est pour cela que vous la sentez comme ça.
D'accord.
Et, ouais.
Et vous savez, j'avais vu au mois de septembre, c'était son anniversaire au mois de septembre, elle était beaucoup plus ouverte, la petite, elle n'était pas du tout pareille, elle n'avait pas la même attitude. Que là, je l'ai trouvée vraiment, disons, particulière. Et puis ce qui s'est passé, c'est que mon petit-fils, maintenant il a 22 ans, il est venu pour Noël et puis il a téléphoné à sa sœur pour lui dire « Bon, tu pourrais téléphoner à papa, pour il serait content de te parler. » Et alors la maman, bien sûr, n'a pas apprécié du tout que mon petit-fils soit intervenu. D'ailleurs, elle m'a fait la remarque vendredi soir. Vendredi soir, j'en ai pris plein la tête.
Enfin, elle s'attaque à vous. Vous n'y êtes pour rien si,
mais oui, mais oui.
Si un frère, un grand frère de 22 ans dit à sa petite sœur de... de 12 mmh. ans, des mmh. choses. Ils sont frères et sœurs, hein, tous les deux.
Mmh. Oui, oui.
On voit là, vous voyez, c'est l'exemple parfait. Oui. Oui. Même pas, voilà, des remontrances qu'elle vous fait.
Oui.
C'est pas la première fois que on voit une belle fille essayer de faire des remontrances à sa belle-mère. C'est quelque chose de somme toute classique.
Oui. Oui. Oui.
Mais vous voyez le fait qu'elle commente et qu'elle s'immisce dans le rapport de sa fille avec son frère, ça montre que, enfin, ça montre qu'elle n'a rien compris.
Non, elle n'a rien compris.
Voilà, parce que c'est important. Ce grand frère, il sera oui. important plus tard pour elle.
Oui.
Et elle reviendra de toute façon vers son oui. frère.
Mmh. Et puis vous savez, quand mon fils était au début avec la maman de ma petite fille là, eh bien vous savez, il a eu des gros problèmes parce que elle ne supportait pas. Elle était d'une jalousie féroce envers la maman de mon petit-fils de Johan, vous voyez, elle était jalouse, c'était des scènes de jalousie sans arrêt, hein. Et puis quand la petite est née, elle a dit à Johan, elle a dit, c'est pas ta sœur, c'est ta demi-sœur, et toi tu es son demi-frère. Vous voyez le genre de personnage.
Oui.
C'est beau, hein.
Oui.
Oui.
C'est pas très intelligent, voilà.
Non,
c'est,
pas très intelligent.
C'est, là, quand je dis que ça n'est pas très intelligent, c'est... Je fais référence même à l'éducation qu'elle donne à sa fille, parce que d'abord elle sape une partie de l'éducation, croyant que sa fille ne va pas en faire les frais de ça, c'est-à-dire en faire oui. les frais, c'est-à-dire oui. gamberger oui. là-dessus, parce oui. qu'elle la gêne obligatoirement sa fille quand elle fait ce genre de choses,
oui.
et elle l'écrase.
Oui. Elle l'écrase.
Ben oui. Et ça, en fait, elle n'a pas compris que ça ne sert à rien qu'elle fasse ça,
oui.
à part avoir ouvert un compte avec cet enfant qui un jour ou l'autre lui rouvrira et fera les comptes avec elle.
Oui, c'est ce que.
Mais c'est ce qui arrivera. Hein,
c'est ce que je souhaiterais aussi, vous voyez.
Oui, bah ça, je me doute que c'est ce que vous souhaiteriez, parce que elle vous porte pas dans son cœur, mais vous la portez
pas dans
votre cœur non plus. Donc,
Mon Dieu, vous savez, c'est terrible, hein, c'est terrible.
Hein, c'est oui, terrible. C'est terrible parce que, vous voyez, on rentre dans des choses qui, finalement, c'est une sorte de guerre que les adultes se livrent. Et au milieu, il y a ces enfants avec ces fameux conflits de loyauté. Mmh. Et croyez-vous que cette petite fille, elle ne serait pas mieux avec la possibilité de parler en toute liberté, en toute quiétude à sa grand-mère, à son frère, à son père et à sa mère aussi.
Oui.
Or, elle fait attention à tout. Elle doit faire attention à tout. Et ça influe obligatoirement sur sa construction. C'est-à-dire que la jeune femme et la femme qu'elle sera plus tard, dans ses fondations de femme, eh bien, il restera ces choses-là, puisqu'elle se sera construite dans la peur,
dans
vous voyez, dans l'angoisse, dans la retenue. Voilà, c'est... Alors après, selon la nature que l'on a, on s'en sort plus ou moins, mieux que les autres, mais plus ou moins. Ça peut être plus, ça peut être moins.
Et puis alors elle m'a dit, la maman, vendredi soir, elle m'a dit, de toute façon, bon, Loane, elle va bien, elle m'a dit, elle est dans un cadre familial, parce que bon, elle a un ami, elle, donc voilà, elle m'a dit que la petite était très bien, qu'elle était bien entourée, ça avait l'air de dire qu'elle n'avait plus besoin de son père, si vous voulez, voilà, hein, en gros c'est ça, hein.
Oui.
Et puis elle m'a dit, ne vous inquiétez pas, elle n'attend pas après le cadeau, elle n'attendait pas après les cadeaux.
Elle vous a dit ça à la mère?
Oui.
Mais elle parle beaucoup, pas la place de sa fille, hein, au final.
Oui. Et vous voyez, elle anticipe tout. Alors, on pose une question, parce qu'on pose une question à Loane, alors automatiquement, elle prend la parole et puis elle répond à la place de la petite. Voilà, elle fait ça.
Oui.
Alors, quand je suis partie, j'ai dit, bah, écoute, Loane, si tu as envie, bah, tu me téléphones quand tu veux, ma chérie, il n'y a aucun problème. Moi, je te répondrai au téléphone. Et puis, si tu as envie d'appeler ton papa, tu appelles ton papa. Et puis, j'ai dit, tu sais, ton papa, il t'aime. Et ton papa, ça lui ferait énormément plaisir que tu lui téléphones. Et vous voyez, ben on n'a plus de nouvelles de la petite, là. Plus du tout, plus du tout. Et ce qui s'est passé, c'est comme Johan a fait la remarque à sa petite sœur.
Qu'est-ce qu'il lui a dit exactement?
De téléphoner, donc ça n'a pas dû plaire à madame.
Qu'est-ce qu'il lui a dit exactement, Johan, à sa petite sœur?
Et ben, il lui a dit de téléphoner à son papa, à papa, que ça lui ferait plaisir de lui parler.
D'accord.
Tout simplement.
Et est-ce que Johan et sa petite sœur, ils se voient de temps en temps, ils partagent un peu de temps?
Et ben, ils se voient moins en ce moment, ils se voient moins depuis quelque temps parce que mon petit-fils n'habite plus sur la région où je, enfin, sur, j'habite dans le Puy-de-Dôme. Hein.
Oui.
Donc mon petit-fils est parti, il vit à côté de Valence là-bas. Donc il vient pas trop souvent, Johan, il est venu là, mais comme il y a eu le problème du Covid, donc il n'a pas pu aller voir sa petite sœur parce que la maman pensait qu'elle pouvait peut-être la voir, donc mon petit-fils n'a pas été voir sa sœur pour Noël, là, voilà.
D'accord.
Mais autrement, bon, ben, de temps en temps, Johan lui téléphone, mais des fois la petite lui répond pas, ou elle répond pas au téléphone. Et c'est ce qu'elle fait maintenant, elle ne répond plus au téléphone. Où on envoie des messages, elle ne répond même pas. Vous voyez ? Voilà.
Oui.
Alors, c'est compliqué. Alors, que faire ? Bon, alors moi, je ne peux plus me manifester parce que maintenant, je vois pas comment je pourrais faire. Qu'est-ce que je... Vous voyez, c'est compliqué. Hein. Puis, je n'ai pas voulu me fâcher avec elle vendredi soir, mais elle m'a dit des choses un peu désagréables. Je n'ai pas répondu. J'ai dit, c'est pas la peine. On ne va pas se disputer. On arrête.
Vous l'avez vu vendredi soir, donc pour les cadeaux de Noël, ça s'est fait où cette remise de cadeaux, dans quel cadre?
Chez elle, à son domicile, parce que comme je ne pouvais pas joindre Loane au téléphone,
ouais.
J'ai appelé la maman. J'ai fait un message à la maman qui m'a répondu qu'il n'y avait pas de problème, c'est que donc on avait fixé le rendez-vous pour vendredi soir. Donc je suis allée et puis voilà. Hein, voilà.
D'accord. Et donc, du coup, elle était chez elle, donc elle s'est permis de vous parler comme ça.
Voilà.
Ouais,
oh,
ça n'aurait pas été la même chose, sans doute, dans
méchante,
un autre...
Méchante, agressive. Je ne comprends pas, Olivier, vous savez, des couples, on ne s'entend plus, on se sépare. Bon, on se sépare, on va chacun de son côté. Mais se servir d'un enfant pour faire du mal à l'autre, c'est épouvantable.
Ouais, c'est malheureusement...
Mais c'est épouvantable.
Si vous écoutez cette libre antenne régulièrement, vous pouvez vous rendre
Olivier,
à l'évidence que beaucoup... ceux qui représentent le plus grand nombre d'adultes qui se séparent et qui se séparent bien, c'est la grande majorité silencieuse, Dieu merci. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup, avec le nombre de divorces qu'il y a, de familles recomposées, beaucoup d'adultes se séparent en évitant de se faire la guerre.
Oui.
Mais lorsqu'on se la fait, on voit combien c'est compliqué pour beaucoup. Moi, je pense qu'il faut que vous... Vraiment, mon conseil, c'est vraiment que vous continuiez, vous qui avez la chance d'avoir un lien avec, avec la petite, un lien quand même avec la mère qui vous répond au téléphone. Faites attention à préserver ce lien. Vous voyez, parce qu'il est tout de même le canal...
Oui.
Principal qui, s'il s'interrompt ce canal-là, ça va être problématique pour vous. Vous voyez, ça va énormément poser de problèmes pour que vous puissiez rentrer en contact avec votre petite fille. Vous savez, parfois, il faut un peu avaler sa fierté, avaler même ce qui n'est pas logique obligatoirement, ce qui n'est pas juste, si on veut préserver ça. Parce qu'un jour, Nicole... Je peux vous dire que si vous avez une attitude irréprochable, un jour, votre petite fille, elle reviendra vers vous, vers son père, vers son frère, parce que vous n'aurez pas, vous tous, été ceux qui empêchaient, ceux qui interdisaient.
D'accord. Mmh.
Et vous aurez tout le temps de prendre du plaisir avec elle et d'essayer de lui expliquer que maintenant, qu'elle est... qu'elle est libre, qu'elle est majeure, par exemple, et ben que vous aurez tout le temps de faire des choses ensemble, de rattraper le temps.
Mais vous savez, le temps passe.
Oui, le temps passe, malheureusement. Mais il faudrait quand même que votre fils retourne vers la justice familiale pour l'avoir un week-end sur deux.
Oui, la justice, oui.
Eh oui.
Alors, bon, il pensait le faire, là, parce que, bon, ben, il finit de... Ben, le problème du divorce, après, bon, ben, il va falloir qu'il essaye de voir pour sa petite. Hein.
Ben oui, mais là, en fait, il perd du temps parce que Vous voyez, le divorce, j'ai envie de vous dire, c'est une chose, son divorce. Mmh. Mais sa D'accord. fille Louane, c'est autre chose. Mmh. Et il ne peut pas mettre en pause... vous voyez, la relation qu'il a oui. avec Louane, il ne peut pas la mettre en pause comme ça parce qu'il a des problèmes de l'autre côté. Ou, alors, oui. ou oui. alors, il faut que vous soyez, vous, un peu le relais de tout ce petit monde.
Oui,
et que,
je le suis.
Oui,
je
et que suis. Vous entreteniez la relation. Et puis que, oui. surtout, en tant que maman, vous lui disiez qu'il ne faut pas qu'il lâche le cadre qu'un juge a mis. Il a eu le droit à un moment de l'avoir un week-end sur deux. Moi, je pense, mm-hmm. vous savez quoi, que de l'autre côté, la maman de Louane, mmh. eh bien, elle a mmh. supposé par écrit et devant la justice tous les moments où Louane n'a pas vu son père, où il n'est pas venu la chercher. Enfin, on va marquer une petite pause parce qu'on aura encore besoin de quelques minutes pour que je vous dise tout ça.
Oui, c'est gentil.
Vous restez
oui.
avec moi, Nicole. On se rejoint
oui,
juste après la
merci.
Pause. 23 heures passées de 4 minutes. Vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin, chers amis. Vous pouvez continuer à faire le 39-21 pour venir vous raconter, comme Nicole a décidé de le faire ce soir pour évoquer eh bien, son fils, père d'une petite Louane de 12 ans qu'il n'a plus le droit de voir, en tout cas qu'il ne voit plus depuis 4 ans. L'important, Nicole, c'est ce que je vous disais, c'est que vous avez, vous, cette chance de, oui. de pouvoir la voir. N'empêche que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on oui. on remarque à travers le comportement de la maman de Louane un travail de fond, un travail de sape qui n'a qu'un but, en fait, c'est finalement d'éloigner progressivement cette petite oui. Louane de son oui. père, mais aussi de vous, de son frère.
De tout le monde.
Et, mmh. et on a en ligne Stéphane qui nous a fait la gentillesse de nous écrire un mail. Et on, oui. on s'est permis de rappeler Stéphane, qui est avocat, mais qui va nous expliquer, parce qu'il avait une réaction par rapport à votre témoignage ce soir, Nicole. Bonsoir, Stéphane.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre mail. Et je me suis permis de dire à Natacha de vous appeler, parce que je vous laisse expliquer ce que vous nous avez écrit, parce que je trouvais ça... je trouvais que c'était exactement ce dont on
oui.
parlait.
Oui, en effet, en fait, j'ai réagi aux propos que tenait votre auditrice ce soir, parce que de temps en temps, j'écoute la radio, là, je suis en train de faire des travaux, je suis en effet avocat, je suis confronté régulièrement à des situations similaires à ce qu'indiquait votre auditrice. Et donc là, c'est pas l'avocat qui appelle, mais c'était plus la personne qui elle-même est confrontée à la situation similaire à celle de son fils.
Oui.
Et quand j'entends les propos que tient cette dame, alors j'appelle aussi parce que justement je me suis entretenu très longuement, pas plus tard qu'aujourd'hui, avec une magistrate dans un dossier que je viens de plaider et qui est tout à fait similaire, pour expliquer justement au magistrat à quel point en fait les conflits, vous parliez de conflits de loyauté, mais de ce que j'entends et des propos que tient cette auditrice, on est beaucoup beaucoup plus loin que le conflit de loyauté. Pour moi, au vu de ce que vous indiquez, on est dans ce qu'on appelle le syndrome d'aliénation parentale, c'est-à-dire ce qui s'appelle, d'ailleurs vous avez dit vous-même, saper le moral, saper la relation, ce syndrome d'aliénation parentale se réduit par SAP. En fait, c'est un processus psychologique qui est extrêmement, qui est de plus en plus, on va dire, étudié, qui est très étudié au Canada et en Belgique. Nos amis belges sont très en avance sur ce point. Et ça crée en fait des conséquences psychologiques. On peut pas même parler de maltraitance psychologique sur les enfants. Mmh. Et la difficulté à laquelle on est confronté du point de vue judiciaire, c'est que nos magistrats et la structure institutionnelle n'est pas suffisamment informés sur les conséquences, sur les ravages de ces problèmes de manipulation. Parce que vous avez dit d'ailleurs, si j'ai bien compris, que votre petite fille Louane est dans une situation compliquée vis-à-vis de la maman. Alors c'est pas régulièrement la maman qui est manipulatrice, mais on peut parler de parents manipulateurs ou de parents qui maltraitent psychologiquement les enfants. Et souvent, on constate que les enfants sont pris en otage tout simplement pour nuire en fait à l'autre parent. Et donc il y a une espèce d'emprise psychologique qui s'instaure, et c'est d'autant plus vrai Alors moi, j'ai réagi parce que justement, j'étais confronté à cette situation. Ma fille avait elle également 11 ans. Moi, ça fait maintenant plus de 8 ans que je n'ai plus du tout aucun contact, ni aucune nouvelle avec ma fille. Alors que paradoxalement, j'ai un fils avec la même mère que j'ai en résidence alternée. En fait, le magistrat préférait les procédures judiciaires étant ce qu'elles sont et les délais étant ce qu'ils sont. Mais le magistrat s'est rendu compte au bout de 3 ans de procédure que manifestement il y avait une difficulté et que donc la résidence alternée était la solution la moins pire dans ce cas-là.
C'est-à-dire, pardonnez-moi Stéphane, mais j'ai bien compris, le frère de votre petite fille donc de 11 ans, vous l'avez en résidence alternée alors que...
Voilà, à l'époque ma fille avait 11 ans et mon fils avait 6 ans.
D'accord.
Et à cette date-là... Dans un premier temps, la maman a fait entendre l'enfant devant le juge et l'enfant de 11 ans a dit « je ne sais pas trop ». Donc, conflit de loyauté, difficulté de prendre une position et l'enfant, c'était plus simple de dire « je vais être chez ma maman plutôt que chez mon papa ». Le problème, c'est que j'avais réagi parce que je ne comprenais pas. J'étais exactement dans la même situation que ce que décrit votre auditrice Nicole. J'étais dans une phase extrêmement d'incompréhension parce que c'était pas possible qu'un parent puisse utiliser l'enfant pour régler des comptes dans le cadre d'une séparation. Sauf qu'en fait, là, j'ai mon côté professionnel qui a pris le dessus. J'ai tout de suite dit, il faut une expertise psychologique et psychiatrique. Et j'avais dit, moi, je m'y soumettrai. Chose dite, chose faite, mais ça prend des mois, voire des années. Dans mon cas, ça a pris 4 ans. Pour qu'au final, parce qu'évidemment, quand une expertise est diligentée, l'expert avait conclu à la mise en place d'une résidence alternée. Mais évidemment, la maman, dans ces cas-là, avait contesté. Et donc, du coup, on s'est retrouvé dans une situation où ça a pris du temps et au final, les deux experts avaient conclu à la mise en place d'une résidence alternée. Et lorsque le deuxième expert a rendu son rapport, le juge s'est dit « bon, c'est quand même bien compliqué cette histoire ». Sauf que dans l'entrefait, mon deuxième enfant, lui, il avait 6 ans et la maman a voulu faire entendre aussi
la même chose.
Après, il avait 8 ans, a voulu faire la même chose. Ce n'est que parce qu'elle a demandé à ce que mon gamin de 8 ans soit entendu et que moi j'ai réagi en disant « attendez, mais comment c'est possible que vous laissiez un enfant de 8 ans intervenir dans un processus judiciaire ? Quelle démonstration vous faut-il de plus ?» pour vous montrer que c'est un enfant qui est manipulé. Alors là, seulement le juge a une révélation et s'est dit, oui, en effet, il est manipulé, cet enfant de 8 ans.
Mais pas celle de 11
ans.
Mais pas celle de 11
ans. Voilà, maintenant, il a 16 ans, maintenant, depuis, oui. C'est en 2012, oui. 2013. Donc, je veux dire, j'ai réagi au propos que tient cette dame, parce que moi, après, je ne connaissais pas l'existence du syndrome d'aliénation parentale, pourtant avocat et pourtant confronté aux problèmes intrafamiliaux et de séparation et de divorce. Mais c'est qu'à travers ma propre histoire, je me suis rendu compte qu'on était, en tout cas la France, était très, très, mais très en retard par rapport à des pays comme le Canada et comme la Belgique sur ce point. Et donc, j'ai été amené à travailler avec un certain nombre de psychiatres et de psychologues sur cette question-là. J'ai même créé une association d'information sur le syndrome d'aliénation parentale que je suis en train de réactiver parce que humainement, ça coûte énormément d'énergie que de traiter une situation similaire. Et mon fils, maintenant à 16 ans, se rend compte que la mère est purement et simplement une manipulatrice.
Oui.
C'est son petit bonhomme de chemin, si vous préférez. Mais c'est compliqué parce que c'est une emprise psychologique à laquelle les enfants ne sont pas dans un cerveau d'enfant. Un enfant, il reste évident que l'enfant, lui, il a un père, il a une mère. Et moi, je dis toujours, quelles que soient les qualités, quels que soient les défauts des pères et des mères, les enfants ont ce conflit. C'est même plus un conflit de loyauté dont vous parliez, c'est un clivage, un véritable clivage psychologique, avec une torture et une maltraitance psychologique qui ne devrait pas être tolérée, qui ne devrait pas être tolérée aujourd'hui en France.
Et comment la combattre, Stéphane, au niveau des lois ?
Justement, et c'est là mon propos, et c'est là pourquoi je réagis, la combattre, c'est que malheureusement, il faudrait réagir vite, c'est-à-dire que souvent, dans les situations d'emprise et d'aliénation parentale, la majorité des experts, et c'est là où on arrive au nœud gordien, c'est-à-dire qu'il faudrait une action de concertation entre les psychologues, les magistrats, les avocats, pour que quand on a les signaux, et là, ce que dit votre auditrice, il y a les signaux, la mise en place est en train de se faire, c'est-à-dire que on considère qu'il y a 5 degrés de syndrome d'aliénation parentale. Le premier stade, c'est ce que décrit votre auditrice, c'est-à-dire l'enfant est dans ce clivage, et il est dans ce conflit de loyauté, il ne sait pas trop quelle position adopter, souvent il va aller vers la position du parent qui est malheureusement le manipulateur ou qui va se positionner comme victime. Et puis, parce que c'est plus simple pour l'enfant, il a cette volonté un peu de protéger l'autre parent. Et puis, on passe au degré 2, au stade 3, puis au stade 4. Quand on est au stade 5, si vous préférez, l'enfant va venir même dire que, par exemple, le parent l'un ou l'autre, soit que la mère l'a violée, soit que le père l'a violée, soit que la mère l'a maltraitée, l'enfant va être à un tel point de rejet de l'autre parent qu'il est capable de venir vous dire qu'il y a eu des faits, en plus en ce moment, avec ce qui se passe dans l'actualité, oui. On peut même parler de faits incestueux, mais l'enfant, on est tellement persuadé, alors même que ça n'a jamais eu lieu, mais l'enfant est tellement persuadé de ce qu'on lui a mis dans la tête, c'est un véritable lavage de cerveau, il n'y a pas d'autre mot. Donc un enfant qui est confronté à ça, c'est compliqué, mais le problème, il est que nos institutions judiciaires, pénales, et de psychologues ne travaillent pas de concert et devraient véritablement travailler de concert. C'est pourquoi il faut agir, malheureusement, il faudrait agir rapidement, c'est-à-dire renverser la vapeur. Si j'imagine que le fils de cette dame, il a forcément des droits sur cet enfant, il a forcément, sauf parce qu'il est condamné pour des faits de maltraitance, j'imaginais pas le cas, mais il devrait absolument et très rapidement ressaisir le juge et faire état de cette difficulté de rupture de lien, parce que ça commence comme ça, c'est la rupture de lien. Et puis après, on passe à l'étape suivante. L'enfant ne veut plus aller voir le père, et c'est pas la mère, ou l'enfant ne veut plus aller voir la mère, et c'est pas le père qui est possible, vous voyez. Donc il y a cette structuration qui se met en place, l'enfant est manipulé, et l'enfant, c'est un enfant, c'est-à-dire que c'est un être fragile, c'est un être innocent, mais il est manipulé, et donc il essaie de trouver son chemin comme ça. Et c'est de la responsabilité des parents, évidemment, qui ne sont pas suffisamment dans un recul, qui ne sont pas dans l'empathie, qui ne se préoccupent pas de savoir ce que l'enfant peut dire.
Non, mais qui utilise l'enfant comme une arme et qui le manipule.
C'est une arme. Ouais. Voilà, c'est une arme. Par exemple, moi je me souviens, dans les premiers dossiers que j'ai pu traiter dans des dossiers similaires, un jour je reçois un client qui me dit « je n'ai plus de contact avec mon fils, là, cette fois-ci un fils, 35 ans ». Ça faisait 35 ans qu'il n'avait plus de nouvelles de son fils. Et ce monsieur, je le connaissais par ailleurs, par le biais d'amis. Je me disais, mais c'est pas possible, il a dû faire quelque chose de tellement grave, ce monsieur, à l'égard de son fils, que j'avais une espèce de méfiance vis-à-vis de mon client. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais comme tout un chacun, se disant, oh là là, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure de ce temps et j'ai pu revoir ce dossier avec un autre regard quand moi-même j'étais confronté à la problématique. C'est un homme extrêmement gentil, vraiment une véritable bonne patte. Et je me disais, mais comment c'est possible qu'un homme aussi gentil ne puisse plus avoir de lien ni de contact avec son fils qui avait plus de 40 ans, ce monsieur avait presque 70 ans, et ça faisait 35 ans que ça durait. Et bien en fait, je me suis rendu compte que c'était un adulte, à l'époque un enfant devenu adulte, qui a été purement et simplement manipulé. Mais il faut aller voir les horreurs que l'enfant pouvait dire sur le degré du père. Oui. C'était complètement hallucinant. Et ça ne correspondait pas à la personne que j'avais dans mon bureau, ça ne correspondait pas à la gentillesse de ce monsieur. Et donc, je me suis dit, mais quelque chose de... Il y a un décalage tellement énorme qu'en fait, on se rend compte que les institutions judiciaires n'étaient absolument pas prêtes il y a 240
mais
ans.
Mais elles ne le sont toujours pas, Stéphane.
Elles ne le sont malheureusement toujours pas, parce que ce syndrome d'aliénation parentale, alors là, il faudrait... moi, je ne suis pas assez outillé du point de vue psychologique sur les conséquences psychologiques. Ce que je sais, si vous préférez, c'est que ce système de clivage... il arrive très rapidement dans les syndromes d'aliénation parentale et si on ne fait rien, c'est-à-dire que malheureusement, parce que ça va même jusqu'au point où si le père ou la mère, en tout cas, on va dire le parent qui n'est pas le parent aliénant, s'il ne fait rien, il se retrouve taxé par le parent aliénant comme, tu vois, ton père ou ta mère ne se préoccupe pas de toi. Tu vois, ton père ou ta mère, vous voyez ce que je veux dire? Donc, quoi que fasse le parent qui n'est pas aliénant, le parent qui, lui, est aliénant va toujours expliquer à l'enfant que quoi qu'il fasse, cet autre parent, il a toujours tort. Et ça, c'est un drame quand même, parce que on est dans des situations où derrière, la justice devrait quand même, à mon avis, prendre en considération
tout ça. Mais vous qui êtes avocat, Stéphane, on l'évoque souvent dans cette libre antenne, comment voulez-vous que cette justice, elle n'a absolument pas les moyens de travailler même dans ce schéma-là, parce que les moyens ne sont pas donnés à cette justice. On va vite, mais c'est de l'abattage.
C'est le problème, c'est même pas qu'une histoire de moyens. Alors évidemment, après, il y a les moyens matériels. Mais en fait, aujourd'hui, je pense que c'est surtout une méconnaissance totale des conséquences de ce syndrome d'aliénation parentale qui n'était pas spécialement connu il y a encore quelques années, si vous préférez. Puisque je me suis rendu compte que, justement, nombre d'intervenants, qu'ils soient sociaux, judiciaires, éducatifs, ne connaissent même pas l'existence de ce syndrome d'aliénation parentale.
C'est quand même assez incroyable ce que vous nous dites, parce que la nature humaine, telle qu'elle est aujourd'hui, elle était déjà là hier, et depuis un moment, cette guerre,
clairement,
elle a toujours été. Donc ce syndrome-là,
il
existe depuis la nuit des temps, pratiquement.
On est bien d'accord. La différence, elle est que dorénavant, on est dans des sociétés dans lesquelles la frustration n'est pas la frustration, quelle qu'elle soit aujourd'hui, de la part de pas mal de gens, en fait, elle est intolérante. On ne veut plus être frustré. On n'a pas de raison d'être frustré. Et quand on se sépare d'avec l'autre, on ne veut pas perdre quoi qu'il en soit. On ne veut pas perdre la voiture, on ne veut pas perdre la maison, on ne veut pas perdre ci, on ne veut pas perdre ça.
Ouais.
Et à un moment donné, en fait, ce qui se passe, c'est que à travers une volonté purement matérielle, et ben la façon qu'ont malheureusement les personnes que l'on peut qualifier comme que ces dames aussi à un moment donné a parlé de manipulateurs et de pervers narcissiques. Alors il faut faire aussi le tri entre l'ivraie et le bon grain, mais manifestement, je veux dire, le système sociétal dans lequel on est aujourd'hui, l'intolérance à la frustration et l'intolérance en fait à la renonciation au bien matériel, c'est que quand on n'arrive pas à atteindre l'autre à travers la partie matérielle, on essaie de l'atteindre à travers les enfants.
Oui,
et c'est ça la difficulté aussi à laquelle on est confronté.
Mmh.
Et parce que aussi, la difficulté aussi que l'on peut voir, c'est que ces enfants qui grandissent dans cette configuration-là, inévitablement, la dame le disait, mais je ne sais pas comment ça va se passer pour la suite des événements, notamment quand elle sera elle-même maman, etc. Mais oui, parce que l'enfant qui n'a pas d'autre modèle que celui d'un enfant manipulé, il n'a pas de point de repère suffisamment établi pour pouvoir se structurer en tant qu'être
et, donc,
et en tant que futur parent.
Et donc, il y a de grandes chances que cet enfant, une fois adulte, répète,
reproduise voilà,
ce genre
exactement,
de choses.
Exactement. Ouais. Maintenant, le delta, c'est que nos institutions, le delta, c'est que, par exemple, la non-présentation d'enfants, le délit de non-présentation d'enfants est quand même prévu par le code pénal, comme avec susceptible de peine de prison entre 3 et 5 ans. Bon, ferme. Le problème, il est quoi? Le problème, il est que, par exemple, je passe les détails, mais dans mon cas, par exemple, bien qu'étant dans la partie en tant qu'avocat, j'ai quand même déposé 98 plaintes. 98 plaintes. Ça a duré quand même 5 ans, la plaisanterie. Au bout d'un moment, j'ai dit, tiens, je vais quand même arrêter de payer la pension alimentaire parce que ça commence à me gonfler l'histoire. Sauf que quand j'ai fait ça, ni une ni deux, que a fait madame, elle a fait une procédure pour un abandon de famille.
Ah oui, d'accord.
Voyez-vous.
Très bien.
Bon, donc, du coup, citation directe pour citation directe, j'ai utilisé malheureusement un autre moyen parce que je ne voulais pas emmener la maman sur le terrain pénal. Je savais pertinemment que si elle était condamnée, j'allais me faire passer encore pour le méchant de l'histoire. Ça n'a pas loupé, puisque au final, quand la mère a été condamnée après 3 ans de procédure et une condamnation à 3 mois de prison avec sursis, plus confirmation par la cour d'appel, mon fils est venu me dire « Mais en fait, papa, tu veux mettre maman en prison ?»
T'es méchant.
Voilà. Sauf que non, sauf qu'il faut expliquer aux enfants que, au départ, il y a des règles qui doivent être respectées. Elles ne le sont pas par le parent, manifestement et malheureusement aliénant. Donc, voilà, la difficulté, c'est que du coup, le parent qui est aliénant et qui manipule l'enfant se retrouve dans une impunité la plus totale parce que, et là on revient à ce que vous disiez au niveau des moyens, mais parce que aujourd'hui, oui, les moyens de la justice sont ce qu'ils sont, et les moyens des structures et des services de gendarmerie et de police sont ce qu'ils sont, et que, c'est sûr qu'entre un crime de sang qui vient de se produire et un papa qui vient ou une maman qui vient vous dire on m'a pas remis mon fils, on m'a pas remis ma fille, ça fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, 20 fois, 30 fois.
Il y a des priorités.
Voilà. Alors, sauf qu'après, faut pas s'étonner quand on voit des pères. Alors, je prends l'exemple des pères parce que on est dans une société dans laquelle où majoritairement les enfants voient leur résidence fixée chez la maman.
Mmh.
Et donc, ça pose le problème plus loin. Ça pose le problème de la loi en la matière. C'est-à-dire que moi, je pense que si les enfants pouvaient, avec un certain nombre de critères respectés, mais je pense que l'alternative à ça, c'est la mise en place d'une résidence alternée. Parce que on peut pas couper les enfants en deux, quoi qu'il en soit.
Comme en Belgique, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais il me semble quand deux parents divorcent, les Belges, la législation belge met la garde des enfants à 50-50.
Exactement. C'est-à-dire que la France devrait s'inspirer, France, pays des droits de l'homme, Moi, ça me fait quand même bien rire. La France devrait quand même un peu s'inspirer de ce que font nos voisins les Belges et notamment un peu plus loin nos cousins les Canadiens. Parce que, vous le dites à juste titre, si le législateur disait, voilà, on met par principe la résidence alternée, charge aux parents qui s'opposent à la mise en place d'une résidence alternée, celui qui s'oppose à la résidence alternée quelque part, il a peut-être des raisons de le faire. Mais alors, si je m'oppose à la résidence alternée, je dois accepter qu'en contrepartie de cela, alors je ne pourrais pas exiger de l'autre parent de me payer une contribution à l'entretien de l'éducation.
Mmh, complètement.
Parce que pourquoi on revient toujours au même débat? C'est que c'est tellement facile. Ben, en fait, on se bat pour avoir les enfants dans un premier temps, mais qui dit avoir les enfants chez soi, donc fixation de la résidence des enfants chez soi, le père qui se retrouve avec de voir ses enfants un week-end sur deux, il faut quand même bien comprendre que le père qui ne voit ses enfants, qui avant les voyait tous les jours, H24, tous les jours, et du jour au lendemain, il se retrouve à avoir ses enfants un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ou des fois jusqu'au lundi matin. Puis en plus de ça, il faut qu'il passe au tiroir caisse. Oui. Si le parent qui s'oppose à la résidence alternée se voyait dire, madame, en l'occurrence, admettons, si vous vous opposez à la résidence alternée, ma foi, vous n'aurez pas le droit de demander en contrepartie
une
contribution à l'éducation.
Ouais. Ouais.
Mais croyez-moi que ça changerait la donne. On n'aurait plus autant de conflits parce que du coup, ça empêcherait en fait le parent qui veut tirer l'enfant derrière lui. Parce que la motivation, elle est de savoir si est-ce que le parent veut avoir l'enfant avec lui pour le bien-être de l'enfant ou est-ce que le parent veut avoir l'enfant avec lui pour ennuyer, pour nuire à l'autre parent.
Mmh, mmh.
C'est ça, c'est le critère de l'intention exacte. Et donc, je pense que si le législateur voyait sa copie autrement et partait sur le principe de dire, alors évidemment, quand les conditions, on va dire géographiques essentiellement, sont réunies, parce que les conditions matérielles ou les conditions de l'entente, des fois j'entends le magistrat qui dit, il faut une entente. Non, et à aucun moment l'entente n'est prévue pour la mise en place d'une résidence alternée. C'est sûr que c'est mieux de s'entendre, mais l'un ne peut pas empêcher l'autre, si vous préférez. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'on ait aussi une lecture différente de la loi. C'est-à-dire, si on dit, ben voilà, principe, résidence alternée, exception, fixation de la résidence chez l'un des deux parents, mais alors l'exception suppose que celui qui s'oppose à la résidence alternée renoncerait à la contribution à l'entretien et l'éducation. Mais croyez-moi, il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de conflits.
Beaucoup, beaucoup moins. On va marquer une pause, si vous le voulez bien, Stéphane, mais je pense que vous êtes allé au bout de votre explication.
Ce que je voulais surtout dire, c'est que ma démarche n'est pas en tant qu'avocat, elle est surtout en tant que papa
qui est
confronté à une situation similaire. Et j'encourage cette dame. Il y a un très bon livre qui existe. Il suffit de taper sur Google qui s'appelle Syndrome d'aliénation parentale, séparation conflictuelle. C'est un livre qui a été écrit par Olga Uldines et préfacé par le docteur Broca. Mm-hmm. Si ces derniers nous entendent, je suis sûr qu'ils seront les mêmes à intervenir également.
Restez avec moi, Stéphane, parce que je vais quand même faire appel très brièvement, parce qu'on a beaucoup de monde ce soir au 39-21, pour que vous disiez quand même à Nicole quelle marche à suivre. On marque une pause. Nicole, vous êtes
très
encore
bien.
Là,
oui.
Et puis on
oui,
se retrouve dans
là.
Quelques instants. À tout de suite.
Merci. Merci.
D'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
23h27 sur Europe 1 et vous êtes sur votre libre antenne. Oui Stéphane, là c'est à l'avocat que je m'adresse. Que conseilleriez-vous à Nicole en l'état actuel des choses avec son fils qui n'a pas vu sa fille depuis 4 ans quelle procédure pourrait-il reprendre là?
Oui. Alors, c'est un peu compliqué de donner un conseil comme ça, parce que quand on n'a pas, je veux dire, les tenants et aboutissants du dossier, c'est toujours très délicat, parce que bon, le propos de votre auditrice, il est ce qu'il est. J'ai pas les tenants et aboutissants, donc c'est toujours un peu délicat. Mais de façon un peu plus globale, ce qu'on pourrait dire, c'est déjà déjà vérifier quels sont les droits qui ont été octroyés au papa. Et puis déjà qu'à minima, ces droits soient clairement et totalement respectés. Autrement dit, si s'il peut avoir sa fille un week-end sur deux, parce que je suppose que c'est le minimum syndical.
C'est ce qu'il avait
oui,
en plus.
Voilà. Ouais. Donc ça, il faut absolument que ce soit respecté quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que le prochain week-end où il est censé l'avoir au titre du jugement, eh bien, il faut déposer une plainte. Il n'y a pas. Je veux dire, malheureusement, il n'y a que l'épée de Damoclès qui fonctionne, et parce que ça va déjà prendre un certain temps. Parce qu'une fois que cette plainte, espérons qu'elle soit suivie des faits. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Ça arrive sur le bureau du procureur, et puis les services de police de gendarmerie traitent ben, voilà, en fonction des ordres de priorité, des moyens humains dont ils disposent. Mais à un moment donné, une plainte, deux plaintes, trois plaintes, quatre plaintes, cinq plaintes, à un moment donné, cette dame, elle va forcément être convoquée, tôt ou tard. Donc soit, et alors on va essayer d'expliquer que c'est pas bien, qu'il faut qu'elle donne l'enfant, patati patata. Alors elle va dire, comme le dit majoritairement...
Que sa fille ne veut pas y aller.
Ah ben vous comprenez, c'est pas de ma faute. Mais c'est ce que j'expliquais, c'est ce dont on parlait encore avec des magistrats. Oui, mais alors, quel parent êtes-vous, vous, pour considérer que c'est votre enfant de 12 ans qui décide ? Primo. Ça montre quand même que le parent est, à mon avis, est-il en véritablement en capacité d'être parent ?
Il est un parent, peu léger. Quand même... Un peu léger.
Voilà. Donc là, on est sur le terrain psychologique. Bon, un parent, c'est un guide, c'est un complice. C'est quand même... Le but, c'est d'élever les enfants. Sauf que si c'est l'enfant qui décide à la maison, alors dans ces cas-là, il suffit que l'enfant dise « Ah ben, j'ai pas envie d'aller à l'école », eh ben, on ne mettra pas l'enfant à l'école. Donc, à un moment donné, il faut revenir aux règles de base qui décident dans la maison. Si c'est l'enfant qui décide, c'est que manifestement, si la réponse que formule le parent qui ne veut pas donner l'enfant est de dire « Ah ben non, c'est l'enfant qui ne veut pas aller chez le père », hein, prenons cet exemple-là, en l'occurrence pour Nicole, ben c'est trop facile. Alors là, les structures doivent dire « Mais non, madame, ça ne peut pas fonctionner comme ça ». Donc là, il doit y avoir la réponse en fait, que va apporter la mère au propos. Ben, il faut absolument que la mère s'engage à respecter les droits du père. S'ils ne sont pas respectés, ils vont continuer sur la voie pénale, malheureusement, parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités à ce stade. Mais il faut essayer de coupler ça avec la mise en place d'un dialogue. Après, le curseur et la difficulté, c'est que si la mère est extrêmement manipulatrice, extrêmement dans l'emprise, et qu'elle coupe toute relation, je ne sais pas, c'est ça que je veux dire, je ne sais pas quelle est la nature de la relation aujourd'hui et de la connexion entre le père et la mère. Mais si j'ai bien compris, le fils de madame, il est dans un état compliqué et il est en pleine dépression. Oui. Il ne faut surtout pas. C'est-à-dire que là, il est en train de se prendre il est en train de vivre les conséquences d'action dont il n'est pas, j'imagine, a priori, le responsable premier. Donc, du coup, il faut absolument que ce monsieur prenne contact avec un avocat spécialisé en la matière, en tout cas sur la partie pénale et sur la partie familiale, parce que il faut travailler de concert. Alors, il pourrait aussi très bien en parallèle, alors, c'est aussi encore un autre débat, mais si on considère, et moi je pense que dans ces cas-là, l'enfant est victime de maltraitance psychologique. Alors la maltraitance psychologique, là encore, elle est difficilement prise en considération. Ça vient, ça arrive de plus en plus, les magistrats sont quand même de plus en plus sensibles à la maltraitance psychologique, pas forcément au syndrome d'aliénation parentale. Mais il pourrait très bien en parallèle saisir le juge des enfants en expliquant, hein, parce qu'il y a deux choses, il y a le juge des affaires familiales d'un côté, le juge des enfants de l'autre. Malheureusement, en France, on considère que les juges des enfants, globalement, ils sont là lorsque les enfants sont maltraités, physiquement maltraités, parce qu'ils n'ont pas à manger, parce qu'ils n'ont pas leurs chaussures, parce qu'ils n'ont pas leurs chaussettes, parce qu'ils ont des trous dans les chaussettes et parce qu'ils ne sont pas brossés les dents ou parce qu'ils ont eu des coups dont on n'arrive pas à connaître l'explication. Sauf que la maltraitance psychologique, elle est beaucoup plus présente et pas suffisamment identifiée. Donc il faudra à ce moment-là que le fils de cette dame saisisse en parallèle le juge des enfants pour que le juge des enfants fasse intervenir avec les moyens dont il dispose, c'est-à-dire cette fois-ci renvoie une enquête sociale pour voir les raisons précises, etc. Et là, on revient toujours à la même problématique. Faudrait-il encore espérer que les intervenants sociaux ou judiciaires qui sont désignés par le juge des enfants et qui interviendraient soient suffisamment informés et connaissent les conséquences et puissent identifier dans quel cas de figure on se retrouve dans un syndrome d'aliénation parentale ou pas. Parce que, attention, on n'est pas tout le temps dans les syndromes d'aliénation parentale. Hein, c'est aussi ça mon propos. Mais là, ce que dit la dame à travers... ce sont des signaux, quoi. D'un seul coup, plus de contact, plus de volonté d'entrer en contact avec la grand-mère. La grand-mère, elle n'a rien fait, Nicole, dans cette histoire.
Mais non.
Vous voyez ce que je veux dire ? Elle n'est pas la responsable de la rupture entre le père et la mère. Sauf que c'est aussi... un élément, c'est-à-dire que d'un seul coup, on comprend pas pourquoi, en fait, on met le père à la poubelle, mais on met et le père, et la grand-mère, et le grand-père, et les oncles et les tantes, et on met tout le monde à la poubelle. Vous voyez la mécanique. Et donc, ça s'installe comme ça, progressivement, et donc, du coup, il y a une rupture de lien avec l'enfant, et c'est là où il faut réagir, c'est là où il faut, je dirais, un peu bouger dans tous les sens, et puis bouger le système, parce que...
Je crois que c'est le maître mot, Nicole, lorsque vous écoutez Stéphane, il faut... Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut réagir maintenant. Il faut vraiment repartir dans une dans un mouvement, hein, dans un mouvement qui va vers la loi, un avocat, et puis voilà, comme vous le dit Stéphane, reporter plainte, si d'abord reclarifier, comme vous a dit Stéphane, où votre fils s'est arrêté en termes de droit de garde donc de Loane, et puis à partir de ce qui a été établi dans un premier temps, même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la mère n'aura pas, à mon avis, manqué de signifier que le père ne s'est pas présenté à plusieurs reprises pour prendre sa fille, mais vu qu'elle lui interdisait de l'avoir, enfin bon, on est dans un sac de nœuds. Hein,
un gros sac de nœuds.
Il faut absolument... absolument, impérativement, que vous repreniez le cours juridique des choses, parce que tout ça...
Surtout, c'est faire respecter déjà ses droits. Le moindre de ses droits doit être respecté, ni plus ni moins. Et dès lors qu'ils ne sont pas respectés, eh ben, il doit agir en conséquence, c'est-à-dire déposer plainte, etc., etc. Parce que laisser... alors, et c'est là où c'est compliqué, c'est que les pères, moi, je le vois souvent... je suis allé chercher ma fille hier soir parce que c'était mon tour, c'était mon vendredi soir. Ah ben oui, mais la gamine, elle veut pas venir parce qu'elle est en haut, elle est au deuxième étage, mais elle a pas envie de descendre parce qu'il fait froid dehors. Et puis finalement, en réalité, c'est parce que la mère n'a pas envie de laisser l'enfant descendre. Bon, très bien, je suis reparti, les bras ballants. Mais j'ai pas voulu aller voir la police parce que je veux pas mettre de l'huile sur le feu, vous comprenez. Oui, sauf que le week-end d'après, on recommence. Et puis encore le week-end d'après, on recommence. Et puis à bout d'un moment, on se dit, tiens, c'est un peu dommage quand même. Là, c'est plus possible, je peux plus continuer à vivre sans voir mon enfant. Oui, enfin, il s'est passé 6 mois. Mais pendant ces 6 mois-là, qu'est-ce qui s'est passé? Et pendant ces 6 mois-là, l'enfant, il était victime d'un véritable lessivage des cerveaux. On lui a enlevé le cerveau, on lui en a mis un autre. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? L'enfant est convaincu que le parent, il est méchant. C'est peu qu'il boive, c'est peu qu'il ait des problèmes d'addiction à l'alcool, parce que justement, il n'a pas son enfant, ça le rend malheureux. Ouais. Et bien, ça ne va faire que d'amplifier le phénomène. Mm-hmm. Et ça ne fait que de donner de l'eau au moulin aux parents qui disent « ton père... » parce que c'est l'exemple, mais ça peut être... Et attention, ça peut être aussi l'inverse, c'est des pères aliénants, hein, attention. Hein. Mais voilà, statistiquement, on se rend compte que 80% des enfants... ce que je veux dire, c'est que lorsque la résidence a alterné, elle est demandée par lorsque les deux parents sont d'accord pour la résidence alternée, elle est fixée à 90%. Lorsque la résidence alternée est demandée par le père, mais que la mère s'y oppose, elle est refusée à 90%. Dès lors qu'en fait, l'un est souvent... Et donc, c'est pourquoi, en général, dans une société où majoritairement, les enfants sont confiés à la maman plutôt qu'au papa. Mais bon sang de bonsoir, un père est tout à fait capable, pas plus ni moins, que de s'occuper de ses enfants.
C'est sûrement chacun l'évolution, l'évolution majeure de ces dernières années, ce début de siècle. C'est que les pères sont capables aujourd'hui d'assurer les mêmes
choses. Alors ça veut dire que les pères doivent reprendre aussi le pouvoir, parce que moi, je n'ai rien contre les féministes, loin s'en faut, et je trouve que c'est un combat fabuleux quand on voit de où on est parti depuis les années 50, même d'avant-guerre, et aujourd'hui, quand on voit moi, je dis que les droits doivent être similaires, ce n'est pas une question de sexe, c'est que si on considère que les mères peuvent avoir les enfants, si on fixe régulièrement ou majoritairement les résidences chez les mères, il faut laisser au père le droit et les droits de pouvoir également s'occuper.
Mais qu'on considère les choses comme enfants. En Belgique, Stéphane, que un enfant a autant besoin d'un père que d'une mère, et qu'à 50-50, quand on a pris la responsabilité à 50-50 de faire un enfant, on se sépare à 50-50.
C'est exactement ça, parce qu'un enfant, dans la vie, il va forcément, en grandissant, il va rencontrer des difficultés de la vie. Sauf que si on lui a enlevé une branche, si on lui a enlevé son père parce que l'autre branche lui a dit, la mère lui a dit, la branche du père, elle n'est pas bonne, elle est pourrie, mais l'enfant, il ne peut pas se construire correctement, il va se construire en biais. C'est un arbre qui va grandir, mais qui va grandir en biais. Grandissant, tout arbre qui grandit en biais, à un moment donné, la moindre des tempêtes, il tombe par terre. Et c'est ça la difficulté à laquelle on est confronté, c'est qu'on a des enfants qui sont amochés pour toute leur vie après derrière.
Exactement. En tout cas, ce soir, je pense que après ce coup de téléphone, Nicole, et après les explications de Stéphane, vous aurez eu la chance d'avoir une explication plus que parfaite, en tout cas complète. Et puis je pense à toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir et qui sont eux aussi dans ce chemin-là. là, hein, avec ces problématiques d'enfants qui sont manipulés. Je pense que vous aurez toutes et tous entendu le discours de Stéphane. Et de toute façon, on le dit souvent sur cette libre antenne, il faut que cette justice familiale soit réformée. Et on cite souvent, Stéphane, la Belgique et le Canada ici comme modèle. Et on s'étonne encore qu'on n'ait pas...
Et j'encourage vraiment Nicole et les auditeurs qui nous écoutent. Ce livre, il coûte 18 euros. J'ai absolument aucun rapport ni contact avec les auteurs ni quoi que ce soit, mais je suis tombé dessus un jour et il est, il s'appelle Syndrome d'aliénation parentale, les enfants en danger. Je crois que c'est exactement ça.
Je vous entends pas.
Séparation conflictuelle et aliénation parentale, enfants en danger. Et il est aux éditions. Il est aux éditions. Que je vous dise pas de bêtises. Il est aux éditions. Alors c'est Roland Broca. C'est le format broché et ça coûte 18 euros. Séparation, c'est aliénation parentale et enfant en danger avec le docteur Broca. Vous le trouvez sur n'importe quel site en tapant sur Internet. Et ce bouquin est vraiment très bien fait. Et c'est une compilation en fait de points de vue d'avocats, de magistrats et notamment de psychologues et de psychiatres et de parents victimes de ce système d'aliénation parentale. Oui. Moi, je peux vous dire, pour l'avoir lu en long, en large et en travers, je dis pas que je pleurais à chaque page parce que je me suis reconnu dans beaucoup, beaucoup de situations. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais oui, c'est ça. Mais c'est pas possible. Mais oui, c'est vrai. Mais oui, je comprends mieux maintenant ce que c'est que le clivage. Vous parliez tout à l'heure de clivage, la gamine qui sait pas trop. Mais un clivage, c'est compliqué pour un enfant. L'enfant, il a un parent, un père, une mère. Moi, je me suis donné un exemple. Mon gamin devait faire un résumé d'une journée de ses vacances. Il était en sixième. On était le lundi, je le récupérais pour ma semaine de garde alternée. Je lui dis, t'es grand maintenant, t'es en sixième, tu peux commencer à faire tes devoirs tout seul. Qu'as-tu à faire ? Pour jeudi, je dois faire un devoir sur une journée que j'ai passée pendant mes vacances. Pas de difficulté. Pas de problème. Le lundi soir, est-ce que tu as fait tes devoirs? Ah ben non, je ne sais pas quelle journée choisir. Le mardi soir, est-ce que tu as fait tes devoirs? Non, je ne sais pas quelle journée choisir. Le mercredi matin, j'écoute là. Il va falloir quand même t'y mettre parce que c'est jeudi matin. Et le mercredi soir, je ne sais pas. Je dis, mais c'est pas possible, tu le sais, t'es grand, tu dois pouvoir faire tes devoirs maintenant. Et là, il se met à pleurer parce que là, il me dit, papa, je ne sais pas quelle journée choisir entre chez maman et chez papa. Et là, je me suis pris un tracteur dans la tête parce que je me suis dit, mais c'est vrai. Et là, j'ai compris ce que c'était que le clivage. Un clivage, c'est ça, c'est le gamin, il voulait pas prendre une journée, alors, donc c'est un gamin qui est très droit, je lui dis, mais c'est pas grave, tu fais une demi-journée chez papa, une demi-journée chez maman. Non, 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 le professeur a dit une journée de vos vacances. Et donc quand je lui ai dit, mais c'est pas grave, raconte une journée de chez ta maman, il s'est senti soulagé, libéré, et là, il a pu faire sa rédaction. Mais c'est à ce moment-là, c'est un exemple, mais j'ai compris ce jour-là, à quel point le clivage était traumatisant pour lui.
Et à combien vous lui proposiez une alternative, et puis surtout quelque chose de normal, de sain.
Voilà.
Merci, c'est simple, quand merci même. Mille fois, mon cher Stéphane. Merci à vous aussi, voilà. Nicole. Et puis, bon courage à vous, Nicole, et bon courage à vous, Stéphane, parce que
il y a. Olivier, est-ce que vous demandez quelque chose?
Oui, allez-y, je vous en prie.
Est-ce que si je peux confier le numéro de téléphone de mon fils hors antenne et si vous accepteriez de lui téléphoner ou qu'il puisse vous parler.
Laissez le téléphone à ne raccrochez pas maintenant et puis vous laissez le téléphone de votre fils, d'accord?
Merci Olivier, merci beaucoup.
Je vous en prie. Stéphane, merci. Bonsoir. Nicole, bonsoir. Merci. Et
bonsoir,
portez-vous
à
bien.
Vous tous. Au revoir. Merci beaucoup.
Merci, bonsoir.